Deutsche Welle
Allemagne Magazine.
Non, ça pourrait, mais non. Ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la bande de Gaza. Nous ne sommes ni à Bangui, ni dans le nord du Mali. Oui, c'est une guerre avec ses milliers de morts, soldats et civils, ses orphelins, ses réfugiés, ses destructions. Non, nous ne sommes pas en 2014, nous sommes en 1914. C'est reparti comme en 14, série spéciale consacrée au centenaire de la Première Guerre. Cette semaine, nous plantons le décor. Pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? La semaine prochaine, place au combat et à l'absurdité de la guerre. Berlin, Hambourg, la vie à l'arrière, ce sera pour la mi-août. Et puis à la fin du mois, nous reviendrons sur l'engagement des colonies françaises et allemandes dans le conflit. Vous êtes à l'écoute d'Allemagne Magazine. Guten Tag, bonjour à tous. En 1914, SMS, MMS, portable, tout cela n'existait pas. Mais on venait quand même d'inventer le téléphone. La salle de bain avec baignoire n'est plus un luxe. Le vélocipède devient une bicyclette. Le Tour de France voit le jour en 1903. La même année, l'avion, tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'envole. L'automobile décolle. Elle permet de partir en vacances au bord de la mer ou à la montagne, à moins que l'on se rende en train à Paris pour admirer la Tour Eiffel ou à Vienne pour rencontrer l'écrivain Stefan Zweig.
Jamais l'Europe n'avait été plus puissante, plus riche, plus belle. Jamais elle n'avait cru plus intimement à un avenir encore meilleur.
Un coup de tonnerre dans un ciel bleu, dira Stefan Zweig. Audrey Parmentier, notre correspondante à Berlin, s'est, elle, entretenue avec deux historiens allemands pour comprendre un peu mieux comment on en est arrivé là. Christa Pöppelmann, journaliste et auteur de « Juillet 1914, un roman » et Martine Bayer, auteur notamment d'une étude sur la Première Guerre mondiale et son souvenir dans le monde, sont au micro d'Allemagne Magazine.
Au mois de juin, avant l'attentat, c'est une ambiance très détendue qui régnait en Allemagne. C'était l'été, les gens étaient en vacances, il faisait extrêmement chaud dans toute l'Europe, il y avait les soldes et on avait l'impression, une impression qu'on n'avait plus depuis longtemps, que la période des crises était révolue.
Cette période de crise dont parle la journaliste Christa Pöppelmann a débuté en 1905 avec ce que l'on a appelé plus tard la crise de Tanger. La France et le Royaume-Uni signent un accord qui leur donne comme zone d'influence respective le Maroc et l'Égypte. Pour protester contre cet accord et surtout contre les ambitions françaises au Maroc, l'empereur allemand Guillaume II se rend à Tanger et demande au sultan d'annuler les privilèges accordés à la France. La France cède, mais dès 1911, une nouvelle crise survient.
Tout a commencé avec une violation française des accords internationaux. La France envahit le Maroc, certes sur ordre du sultan, mais quand même, cela ne va pas sans poser de problème. Malheureusement, du côté allemand, il y avait chez Guillaume II, mais aussi chez son chargé de politique étrangère, cette idée qu'il fallait montrer sa force pour décourager l'adversaire. Il décide donc d'envoyer une canonnière dans la baie d'Agadir.
Après de longues négociations, Guillaume II finit par renoncer au Maroc en échange de 272 000 km² de territoire en Afrique équatoriale, au Gabon et au Moyen-Congo. Mais ce compromis est fragile. En 1914, la tension est donc palpable chez les dirigeants allemands et chez les dirigeants français. Et la paranoïa existe dans les deux camps. C'est ce qu'affirme Christopher Clark dans son livre « Les somnambules », qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires en Allemagne, un record. L'historien australien défend l'idée que la crise qui a entraîné la guerre de 1914 était le fruit d'une culture politique commune à tous les pays qui vont ensuite entrer en guerre. Christa Pöppelmann.
Il y a en effet beaucoup de gens qui ont échoué. C'est ce qui rend cette crise si fascinante. Somnambule, c'est un concept qui ne me plaît pas. On dirait qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait une crise. Or, la vérité, c'est qu'au contraire, ils étaient hyper sensibilisés. En particulier dans le commandement allemand, aussi bien le chancelier Bethmann-Hollweg que le chef de l'état-major Moltke, tous les deux avaient très peur de la manière dont les choses pouvaient tourner. Ils étaient persuadés que la Russie et la France allaient déclarer la guerre à l'Allemagne au plus tard en 1916. Et ils ne voyaient qu'une seule solution, attaquer la France en passant par la Belgique. Ils n'ont cessé de la défendre auprès de la classe politique et ce n'était pas du somnambulisme, c'était de la panique.
Und das ist kein Schlafwandeln, das ist Panik.
Martin Bayer.
Ich finde den Begriff Sleepwalkers, Schlafwandler.
Le concept de somnambule mérite des explications. Beaucoup se disent des somnambules, ce sont des gens qui marchent à tâtons, ne savent pas ce qu'ils font, et hop, tout à coup, c'est la guerre, sans que personne ne soit responsable. Mais ce n'est pas ce que veut dire Clark. Il se réfère au somnambule dans le sens où les gens font quelque chose, mais n'ont pas conscience des conséquences de leur acte. Autrement dit, les différents acteurs du conflit n'ont pas perçu les conséquences que pouvait entraîner cette escalade.
Des conséquences qui ont surpris les populations alors que plusieurs personnalités les avaient prédites, et notamment Friedrich Engels. Dans un discours de 1887, le philosophe allemand ami de Karl Marx a annoncé qu'entre 8 et 10 millions de personnes allaient s'affronter lors de la prochaine guerre, mais personne ne l'a pris au sérieux.
Les industriels français, qui gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les Allemands qui s'engraissaient de leur côté parce que les uns et les autres voulaient livrer plus de canons, les Krupp et les Schneider du Creusot.
Je m'appelle Annie Lacroix-Riis, je suis historienne, professeure émérite d'histoire contemporaine à Paris 7. Et spécialiste d'histoire des relations internationales au XXe siècle.
Annie Lacroix-Riis, je l'ai rencontrée comme vous allez l'entendre dans un café au nord de Paris, près des Archives nationales.
L'assassinat du prince héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie ne constitue en quelque sorte qu'une occasion ou un prétexte à une guerre qui est d'ailleurs prévue par les sources diplomatiques et militaires depuis pratiquement des décennies. Donc la thèse de l'enchaînement fatal, absurde, et en particulier d'ailleurs du Haut-Slave, est une thèse qui est totalement contradictoire avec les sources. On est en conjoncture de crise et la seule parade apparaît l'engagement militaire. Il est d'ailleurs préparé de longue date par un réarmement gigantesque avec le développement des flottes, la frénésie pour se ménager des bases, pour ne pas les perdre ou pour en conquérir. Et puis par un armement terrestre énorme, notamment entre la France et l'Allemagne. Par conséquent, quand la crise éclate en 1914, non seulement il n'y a pas de surprise, mais il y a là quelque chose de tout à fait prévu et je dirais qui arrange particulièrement le capital financier, puisqu'il est impliqué au premier chef dans les préparatifs de cette guerre et évidemment dans la gestion de cette guerre.
Est-ce que néanmoins vous seriez d'accord pour dire que les différentes puissances s'attendaient sans doute à un conflit court et bref qui mènerait assez rapidement à la victoire ?
Je ne crois pas du tout à cette thèse. C'est une thèse qui est sans cesse répétée, qui n'est confirmée par aucune source. La question ne s'est pas posée. La question principale qui s'est posée, c'est l'utilisation d'une masse d'armement qui allait, somme toute, ouvrir par la voie militaire des marchés qui ne s'ouvraient plus par la voie pacifique. La course aux armements, elle s'explique parce qu'on entre dans une période où les marchés se ferment. L'État assure des commandes massives de produits sidérurgiques, enfin de produits destinés à la guerre. Et bien entendu, c'est un phénomène qui, au cours de la guerre, se développe de manière exponentielle. Quand on analyse ce que sont les rapports de pouvoir à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qui commande et qui ne commande pas. On est bien obligé de constater que les forces dirigeantes, ce ne sont pas les politiques. Dès le début du XXe siècle, ce sont les grands groupes qui dirigent tout, qui dirigent les partis, qui sont très influents parmi les militaires, militaires qui, une fois retraités, iront pantoufler dans les conseils d'administration des grands groupes. Ce sont eux qui financent l'essentiel des mouvements et des partis. Par conséquent, ils ont une tutelle sur la société, ils ont une maîtrise sur les ministres qui font qu'on ne peut pas parler d'autonomie, pas plus qu'aujourd'hui.
Évidemment, en Allemagne, on parle beaucoup de groupes. Est-ce que vous voyez un équivalent en France?
Ah oui, tout à fait.
En termes de d'influence, quoi.
Absolument. Je vois tout à fait des équivalents français. D'abord, on peut considérer qu'il y a deux véritables gestionnaires de la guerre en France, c'est le comité des forces et le comité des houillères, c'est-à-dire l'industrie lourde, exactement comme leurs homologues allemands. Je dirais associés à ce comité des forces, les industries transformatrices, comme Schneider, au sens propre, les marchands de canons, et comme ce qui va se transformer en marchands de canons, de véhicules pour la guerre, etc., des gens comme Renault. Vous avez avec Renault des exemples aussi spectaculaires, avec les Wendel aussi spectaculaires pratiquement que Krupp et que Daimler. Vous savez bien ce que disait Anatole France, hein, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. D'ailleurs, vous observerez à quel point est contradictoire cette espèce de période de repentance ou de lamentation sur les pauvres soldats souffrant dans les tranchées et la réalité qui est que se multiplient les guerres périphériques aujourd'hui avec une violence, une intensité et une extension géographique très supérieure à celle qui a précédé au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Hätte ich aus Kriegen den zu wählen, der mir am besten so gefällt. Tausend und mehr müsste man zählen, die es gab auf dieser Welt. Würde ich gar nicht erst lang geraten, auch Bedenken hätte ich keins. Ich bin Fan der Oberstgestatten von Weltkrieg Nummer 1.
Merci à Annie Lacroix-Ritz d'avoir répondu à nos questions. Merci à Audrey Parmentier d'avoir ouvert le bal depuis Berlin. Pour podcaster cette émission, direction la médiathèque de notre site internet dw.de/français. Vous pouvez aussi nous écrire à français@dw.de. C'était Constance Wenkötze au micro. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tschüss.